Bonsoir. Dans un communiqué publié dimanche dernier, le ministère de la Santé annonce que l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et Ituri depuis 8 mois vient de dépasser les seuils de 1000 cas. Le ministère de la Santé publique précise par ailleurs que sur 1000 cas enregistrés, il y a 629 décès et 321 personnes guéries ainsi que 65 cas probables. Le ministère invite les personnes considérées comme leaders d'opinion à s'engager positivement en partageant des messages qui favorisent l'adhésion de la communauté dans la riposte contre Ebola. Quelle lecture faire de la persistance de cette maladie dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Dr Justus Sio. Il est coordonnateur de la riposte contre Ebola à Butembo, au Nord Kivu. Dr Sio, bonjour. Bonsoir plutôt.
Bonsoir.
Edgar Matesso, premier vice-président de la société civile du Nord Kivu. Monsieur Matesso, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Benoît Cambéré avec moi dans ce studio. Il est expert en communication. Il est secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo. Benoît Cambéré, bonsoir.
Bien, bonsoir, Kéline Couté.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Ben Benoît Kabaye depuis le Grand Bandundu. Ebola est un grand et sérieux problème. On a besoin de l'implication de tout le monde et surtout des malades afin de protéger ceux qui ne sont pas encore atteints par cette maladie. Merci de nous suivre sur toute l'étendue de la RDC en modulation fréquence. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'épidémie à virus Ebola a dépassé le seuil des 1000 cas dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Selon un communiqué du ministère de la Santé publique publié lundi 25 mars, 1009 cas, dont 944 confirmés, ont été répertoriés depuis 8 mois. 65 cas probables et un total de 629 décès sont enregistrés. 321 personnes ont été guéries, ajoute le communiqué du ministère de la Santé. Le point avec vous, Papi Martial Mokeba.
Jusqu'à ces jours, selon le ministère de la Santé, l'équimile des cas d'Ebola au Nord Kivu et en Ituri est de 1009 pour un total de 629 décès et 321 personnes guéries. Dans son communiqué, le ministère de la Santé dit que derrière ces chiffres se trouvent plusieurs centaines de familles congolaises directement touchées par Ebola et des centaines d'orphelins. La riposte conduite sous le leadership du ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires a permis de limiter l'extension géographique de l'épidémie pendant plus de 8 mois. À ces jours, l'épidémie ne s'est pas propagée dans les autres provinces de la RDC ni dans les pays voisins, bien que les risques restent présents, rapporte le ministère de la Santé. Ce communiqué révèle que la vaccination ciblée a permis de protéger plus de 91 000 personnes, dont près de 23 000 contacts à haut risque et a été en contact direct avec des patients confirmés d'Ebola. L'amélioration de la qualité des soins de support et l'utilisation des molécules thérapeutiques ont permis d'augmenter les taux de survie moyens dans les centres de traitement Ebola CTE à plus de 60%. Ainsi, plus de 6 personnes sur 10 qui sont admises au CTE survivent, précise le ministère de la Santé. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Merci Martial Mukeba pour tous ces détails. Docteur Justus CEO, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la riposte contre Ebola à Butembo, au Nord Kivu. L'épidémie d'Ebola vient d'atteindre, je voulais dire, l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et Ituri depuis 8 mois, vient de dépasser le seuil des 1000 cas. Comment vous expliquez cela, docteur Sio?
Oui, merci madame et merci à tous les spectateurs de Radio Okapi. C'est vrai que lorsqu'on dit que le nombre de cas vient de dépasser des 1000 cas, ça fait peur parce que la RDC, comme vous le savez, est à sa 10e épidémie. Et cette épidémie, si la 10e devient la plus meurtrière ou la plus grosse de toutes les épidémies. Mais au côté de cela, il faut voir aussi les contextes dans lesquels cette épidémie est en train de sévir. C'est pour la première fois que nous avons une épidémie dans un contexte de mobilité permanente de la communauté et de la population. Et c'est aussi pour la première fois que nous avons une épidémie qui sévit dans des zones qui sont qui est à bout d'insécurité, où les équipes ne peuvent pas travailler.
Docteur Sio, on a un petit souci avec votre ligne. Est-ce que vous pouvez bouger ou vous déplacer pour améliorer la qualité de la ligne?
Oui, je pense que maintenant ça va bien.
Oui, ça s'est amélioré.
Ok, donc j'étais en train de dire que c'est vrai que passer les caps de 1000 cas, ça fait réfléchir, mais dans les contextes actuels, cela peut se comprendre parce que nous sommes dans un contexte où la population est en permanent mouvement entre les contrées, et les populations qui sont affectées, c'est dans les zones insécures où les équipes ne peuvent pas travailler 24 heures sur 24 comme ce fut dans les autres épidémies. C'est vrai, il faut dire que il y a des efforts qui ont été fournis, et les efforts sur terrain sont en train de se faire remarquer de plus en plus pour arriver à contrôler et à maîtriser, à réduire l'extension de la maladie et à avoir certains résultats. C'est vrai que nous dépassons les 1000 cas, nous venons de dépasser les 1000 cas, mais il y a beaucoup de foyers qui ont été éteints. Il y a beaucoup de foyers qui ont été éteints. Et lorsqu'on compare notre épidémie actuelle, qui, en fait, peut être dans le même contexte que celui d'Afrique de l'Ouest, mais il faut dire que selon les temps, comme nous venons de passer les 1000 cas, en Afrique de l'Ouest, c'était autant à la moitié du temps, parce que nous avons fait 8 mois, mais avec l'Afrique de l'Ouest, je pense que c'était en moins de 4 mois qu'ils avaient dépassé les 1000 cas. Et il faut dire que nous avons contenu l'épidémie dans les deux provinces, et parce que c'était un risque énorme que tout le monde, et même la communauté internationale, craignait, vu la proximité des pays voisins. Mais je pense que c'est vrai qu'on a atteint les 1000 cas, on a dépassé, les efforts sont en train d'être fournis. On était à 19 zones de santé qui étaient touchées, et maintenant on est à 9 zones de santé qui sont pas très actives. Je pense que l'espoir est là. Nous allons, le ministère de la Santé avec tous les partenaires, est en train de fournir les efforts, de multiplier les stratégies pour arriver au bout de cette épidémie dans très peu de temps.
Alors, docteur Sio, il y a à peu près 2 mois, on parlait des 500 cas enregistrés sur toute la zone, ça veut dire Nord Kivu et Ituri. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 cas. Est-ce que cela signifie que c'est un échec de la riposte?
Non, je ne crois pas que ça soit un échec. Plutôt, il faut regarder les contextes dans lesquels l'épidémie est en train de sévir. Si vous regardez très bien, nous arrivons à avoir plus en plus de cas, mais nous n'arrivons pas à avoir de tension dans l'espace. C'est-à-dire que nous faisons un effort pour contrôler l'épidémie, tandis que dans cet espace, nous avons du mal à entrer et à travailler facilement dans les zones qui sont insécures. Et le pic que nous venons d'avoir, si vous suivez très bien l'évolution de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans le nord Kivu et en Ituri, et surtout dans la contrée de Butembo, qui est notre dernier épicentre, les pics que nous avons fait suite aux dernières étapes que nous avons eues vers la fin du mois de février, les 25, le 26, le 27, les deux centres de traitement ont été attaqués et il y a eu des malades qui s'étaient échappés. Et pendant 3-4 jours, les équipes étaient paralysées et on n'a pas pu suivre correctement les malades qui étaient dans les communes. On n'a pas pu les extraire, donc il y a eu des contaminations. Et il faut saluer les efforts des équipes, parce que 48 heures après, le centre de traitement a été réouvert et on a dû chercher les malades, aller récupérer la communauté. Mais ceux qui étaient dans la communauté étaient en contact avec d'autres personnes. C'est ce qui fait que maintenant il y a une explosion. Mais les efforts sont en train d'être fournis pour retrouver tous ces cas et pouvoir les soigner correctement au niveau des centres de traitement et suivre tous les contacts.
Alors nous apprenons que la coordination de la riposte a été délocalisée des Beni à Goma. Pourquoi, docteur Sio?
Comme vous savez, Goma, c'est le chef-lieu. Et à Goma, on a facilité à atteindre tous les foyers. En fait, lorsque la coordination générale était à Beni, pour aller à, par exemple, à Bounia, c'est un peu difficile. Alors, la coordination générale est montée à Goma de façon stratégique pour avoir accès facile à tout les foyers qui sont touchés par la maladie à virus Ebola. C'est juste pour permettre la facilité d'accès pour une bonne coordination et une bonne supervision.
Mais ceux qui sont sur terrain, c'est-à-dire à Beni, constatent que depuis que le centre a été délocalisé, on enregistre beaucoup de nouveaux cas à Beni. Est-ce que le fait de délocaliser ce centre n'a pas un impact négatif sur le travail de la riposte?
Je ne pense pas, parce que la coordination stratégique n'est pas la coordination opérationnelle. À chaque foyer, nous avons des coordinations opérationnelles et nous avons des équipes d'intervention rapide avec la participation de tous les partenaires et tous les techniciens. Alors, au niveau de la coordination stratégique, c'est juste pour avoir une idée globale de l'épidémie et donner des orientations stratégiques. Mais l'augmentation des nombres de cas n'est pas liée à la coopération stratégique générale.
Merci, docteur Sio. Entre-temps, la réalisation va essayer de vous recontacter sur un autre numéro, parce que là, on a vraiment beaucoup de mal à pouvoir vous suivre, docteur Yao. Edgar Matesso, premier vice-président de la société civile du Nord Kivu, comment vous analysez-vous ou quel est-vous faire de la persistance de cette maladie dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri?
Merci madame pour l'accord de la parole. D'entrée de jeu, je vais saluer les co-débatteurs qui sont déjà en ligne et je salue également la prouesse des équipes de la riposte qui sont en train de travailler sur le terrain. Je présente mes condoléances aux familles des victimes de cet Ebola, mais aussi je continue à féliciter la guérison de 321 personnes. Parce que ce n'est pas que avoir l'ampleur de l'épidémie dans la région, il y a lieu de se dire qu'on a réussi à sauver ces vies humaines. Et madame, pour revenir au débat, pour revenir à la question, il faut le dire, à mon avis, les responsabilités devraient être partagées. Et moi, je les situe à 5 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du gouvernement. Le gouvernement, au début, avait géré cette épidémie avec beaucoup de légèreté. Vous voyez, par exemple, lorsque l'épidémie a commencé à Mangina, au mois de mai, les symptômes, ce n'est qu'au mois d'août qu'on a proclamé, qu'on a déclaré l'épidémie dans la région. Et vous comprenez donc, pendant 3 mois, les gens continuaient à se contaminer, mais malheureusement, il n'y avait personne pour suivre ça. Parce que les infirmiers étaient en grève et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais puni ceux qui avaient détourné la prime de risque de ces infirmiers. Et pour votre information, au niveau de la société civile, nous avons encore été alertés qu'il y a de l'argent des infirmiers qui serait perdu. Donc pour dire que ces infirmiers qui peuvent suivre cette épidémie travaillent dans de grands mécontentements, mais malheureusement, ceux qui détournent leur argent, et même de l'argent qui arrive, par exemple, à banque, pour des gens de Boutembo, de Beni, de Ouidja, qui doivent aller chercher l'argent à Goma, à une distance de 420 km, 450 km. Ils doivent aller à pied dans une zone insécurisée et ils sont obligés de suivre cette épidémie avec beaucoup de légèreté. Au même moment, du côté toujours de la responsabilité du gouvernement, les autres aspects connexes dans le contexte de l'épidémie, c'est notamment l'insécurité, les massacres dans la région de Beni, ce sont des questions qui sont suivies avec trop de légèreté, si bien que ce genre de questions développent plus de rumeurs du côté de la population, des réticences du côté de la population, et ça devient maintenant une manipulation, une récupération politicienne de certains acteurs. Un autre aspect, c'est que c'est une épidémie qui est tombée à une très mauvaise période, la veille des élections. Je m'en vais développer le deuxième aspect, parce que je disais que les responsabilités seraient partagées. Du côté des acteurs politiques maintenant, les acteurs politiques ont utilisé Ebola comme une béquille politique, c'est-à-dire certains politiciens, pour se faire une santé politique la veille des élections, sont en train d'incriminer les équipes de la riposte et utiliser des messages de haine allant dans le sens d'amener la population à se lever contre les équipes de la riposte. Et là, on va assister justement à des attaques des experts de la riposte qui sont sur le terrain, à des incendies de structures sanitaires. Et là, les équipes de la riposte vont travailler dans des contextes très difficiles, si bien qu'ils auront des difficultés à intervenir sur le terrain. Pire encore, la veille des élections du 30 décembre, lorsque le président de la CENI avait reporté les élections législatives au niveau de Beni et de Boutembo, cela a renforcé encore une fois une certaine méfiance du côté des électeurs qui étaient déjà prêts à aller aux élections pour avoir leurs représentants à tous les niveaux. Et cela n'a pas changé la population au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau du terrain. Du côté de la population, là aussi on observe plusieurs cas de manipulation. Et une population qui cède très facilement aux rumeurs, une population qui continue à cacher les malades, à cacher les morts ou à enterrer clandestinement. Et bon, en fait, c'est une population traumatisée. À la suite des événements qu'on a vécu dans la région, on peut comprendre à ce niveau-là, mais si elle pouvait facilement comprendre les messages et s'approprier les orientations des experts, on allait aboutir à un résultat. Je vais vous donner un exemple très
rapidement.
Simple. Avant-hier, il y a par exemple trois enfants qui ont disparu, qui sont perdus de vue, parce qu'ils étaient en train d'être suivis. Leurs parents étaient déjà morts d'Ebola et leur oncle qui les gardait vient d'être confirmé. C'est dans la zone de santé de Kato, dans l'aire de santé de Mutanga. Alors, une autre responsabilité, c'est du côté des professionnels de la santé. Surtout les professionnels de la santé qui ne sont pas engagés dans la riposte, ce sont des gens qui manifestent un certain doute par rapport à la maladie. Ils propagent des rumeurs et ils présentent certaines hésitations lorsque la population vient les consulter. Et pire encore, certains d'entre eux vont jusqu'à soigner clandestinement les malades et parfois des malades qui sont confirmés positifs après investigation et des fois malheureusement après la mort.
Alors, le ministère de la Santé invite les personnes considérées comme leaders d'opinion. On considère que la société civile fait partie aussi de ces leaders d'opinion à s'engager positivement en partageant des messages qui favorisent l'adhésion de la communauté dans la riposte contre Ebola. Qu'est-ce que vous, société civile, vous faites pour aider le gouvernement dans ce travail?
Oui, madame, depuis le début de l'épidémie, la société civile du Nord Kivu s'est déjà placée à la ligne de défense parce que elle a déjà largué la plupart de ses organisations sur le terrain pour essayer de communiquer avec la population pour faire passer le message. Et à l'heure où je vous parle, par exemple, la société civile de Butembo vient d'organiser plus de 5 tribunes d'expression populaire où on appelle la population pour que la population vienne poser des questions aux experts et les experts répondent de telle sorte que l'on soit à mesure de briser les rumeurs. Et il y a aussi d'autres messages qui sont propagés, qui sont véhiculés dans la communauté allant dans le sens d'aider les équipes de la riposte pour baliser les terrains de sorte que l'on aille dans le sens d'éradiquer cette épidémie.
Merci Edgar Matesso. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Benoît Kambéré, expert en communication. Vous êtes également secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo. Vous revenez justement de cette zone, Benoît Kambéré. Comment vous expliquez la persistance de cette maladie? Quelles sont les réalités que vous avez trouvées sur place?
Bien, merci Kelly Kouté. Je voudrais profiter de la parole que vous me donnez pour saluer mes deux co-débatteurs, le docteur Sio et Edgar Matesso. Et bien sûr, présenter également mes compassions à la population traumatisée du Nord Kivu, de l'Ituri, de Beni Butembo et de Bunia, n'est-ce pas? Vous venez de le dire, je viens de la région, j'ai été pour d'autres raisons, c'était pour rencontrer les journalistes de la région et installer un comité de l'UNPC à Bunia, mais j'en ai profité pour passer à Beni, où il y a une grande concentration des communicateurs et journalistes, et à Butembo, où j'ai pris langue avec eux, et comme leader d'opinion, n'est-ce pas? Les journalistes en font partie, parce que non seulement ils font partie de la société civile, mais également ils travaillent. Le journaliste est un communicateur, il éduque, il informe et il divertit. Et ce qu'un journaliste dit, il y a des anecdotes, n'est-ce pas? Quand un journaliste a dit quelque chose à la radio, tout le monde prend ça pour parole d'évangile. C'est pour cela que la presse, les journalistes, les communicateurs devraient se mettre à l'œuvre pour également travailler dans la riposte, même dans des conditions difficiles. Parce que déjà au début, tout à l'heure, Edgar Matesso a parlé des responsabilités à plusieurs niveaux. Effectivement, au niveau du gouvernement, il y a eu une stratégie de recrutement qui a posé problème. Tous ceux qui arrivaient, médecins ou personnel de santé, tous ceux qui arrivaient n'étaient pas de la région. Pour la simple raison que pour mieux communiquer, il faut communiquer en langue locale. Il y a pourtant des médecins à Beni, il y a pourtant des médecins à Butembo, il y a pourtant des médecins à Bunia qu'on pouvait déjà utiliser dès le début. Mais cela a créé une méfiance auprès de la population. Quelqu'un qui on a amené des gens qui venaient de Sierra Leone, de Liberia, qui parlent qui parlent anglais et à la limite le français, qui ne s'expriment pas en swahili, qui ne s'expriment pas en kinande, ça posait problème. Et puis tout à l'heure Edgar Matesso a parlé du mécontentement du personnel de santé. Et il n'est pas normal avec l'impayement qu'il y avait et surtout le problème de l'argent qui circule. J'ai appris par exemple en passant par le parking de coordination des ripostes à voir le nombre de véhicules qui sont loués et l'argent qui est en train d'être dépensé. On pouvait penser à
au personnel de santé local qui n'est pas payé, qui est presque en grève. Cet argent pouvait être canalisé vers ces gens-là. Il y aurait moins de rumeurs et il y aurait moins de méfiance. Et cela mettrait en confiance les infirmiers, cela mettrait en confiance les médecins, surtout que ceux qui sont recrutés localement, d'après les informations que j'ai pu recueillir, sont payés à un prix très bas par rapport à ceux qui viennent d'ailleurs de Kinshasa, qui ne s'expriment pas en Swahili ou en Kinande, et ça pose un problème de communication avec la population. Et avec cette méfiance des gens qui manipulent des sommes d'argent et des gens qui sont pas payés ou sous-payés, qui vivent dans la pauvreté, ça pose un sérieux problème. Alors, il y a le fait que, également, il y a l'implication des journalistes, c'est vrai, des stations de radio, il y en a beaucoup, des radios communautaires à Beni et à Butembo, ils sont sollicités, mais pas assez. J'ai rencontré des patrons de radio, par exemple, qui se plaignent de la petite prime qu'il leur est donnée pour les spots qu'ils passent de façon journalière et presque à toutes les heures. Alors que l'argent est en train de circuler, je ne vais pas, peut-être que le docteur Sio va nous le dire, quel est le taux de la paye de ceux qui viennent de l'extérieur et de ceux qui travaillent. Et cela pose des problèmes. Et nous, journalistes, on est obligés de faire taire la rumeur, de donner l'information, de rassurer la population. Mais ce n'est pas facile quand les leaders d'opinion politique s'en mêlent, les leaders d'opinion de la société civile s'en mêlent. Mais heureusement qu'on est en train de corriger, semble-t-il. Il y a les chefs de quartier qui ont été mis en contribution.
On devrait revoir la stratégie ou la méthodologie.
Absolument, la stratégie de communication, la stratégie même de recrutement. Il paraît qu'on a déploré le recrutement qui a été fait au début. On prenait n'importe qui avait tout simplement un rapport ou un contact avec les équipes qui venaient d'ailleurs et qui vivent en vase clos. On les voit, par exemple, dans des restaurants, ils sont seuls à consommer, à dépenser de l'argent. La population voit et les gens se méfient. Et tous ceux qui n'ont pas pu, avoir accès à être engagés, ça pose problème. Si cet argent pouvait être canalisé autrement, cet argent pouvait être distribué équitablement parmi la population, notamment en engageant les infirmiers locaux, les communicateurs locaux, les médecins locaux, ça arrangerait beaucoup de choses. À titre d'exemple, j'étais à Goma lors du...
Certaines personnes disent que les infirmiers locaux ne sont pas suffisamment formés.
Ben, écoutez, c'est pour à titre d'exemple, mettre le chlore dans l'eau. Je ne sais pas quelle formation il faut donner. Et les infirmiers qui viennent d'ailleurs, ce sont des infirmiers. Il suffit de les coacher pendant un moment. Ils seront formés. Et au moins, ils parlent la langue locale. Ils parlent en swahili, ils parlent en kinandé. Et ça peut faciliter la communication. Plutôt que des gens qui viennent, qui s'expriment en lingala. Et des fois, il semblerait que ils se moquent même de la population. Ils croient que les gens ne comprennent pas le lingala, ce qui n'est pas très très bon. Et cela fait que les gens se méfient et ce n'est pas bon pour la riposte. Mais heureusement qu'il semble qu'on a commencé à corriger. On recrute localement, on implique la population locale, les leaders sociaux, les chefs de quartier, les gens du coin que les gens connaissent et qui suivent facilement.
Merci Benoît Kambéré. Docteur Sio, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka, avant que vous ne puissiez réagir au propos de Edgar Matesso de la Société Civile du Nord Kivu et de Benoît Kambéré, qui est expert en communication.
J'ignore Bumpongo à partir de la ville de Mbandaka. 629 cas de décès, 6000 cas touchés de la maladie à virus Ebola, c'est beaucoup trop. Et cela montre que cette épidémie n'est pas du tout maîtrisée et l'hypothèse que ces chiffres puissent augmenter est gravissime si l'on ne fait pas attention. Au regard de cette situation, il y a lieu de se demander quel programme sérieux est arrêté par le gouvernement pour arriver à à faire réellement face à cette épidémie. Pour moi, il est plus urgent que le gouvernement redéfinisse sa politique de santé publique, étant donné que les mécanismes mis en place pour la riposte de cette maladie à virus Ebola ont montré leurs limites.
Docteur Justus Sio.
Oui, merci beaucoup, madame. Je remercie mes co-débatteurs. Tant bien même que la communication n'a pas permis que je suive l'intégralité de leurs interventions. Par rapport à la dernière réaction, c'est que je peux dire que l'épidémie de la maladie à virus Ebola, c'est une maladie où les premiers acteurs, les premiers intervenants, les gens qui peuvent arrêter facilement cette épidémie, c'est la communauté. Et lorsque la communauté elle-même ne s'implique pas, elle ne s'accroupit pas, c'est un peu difficile de pouvoir gérer cette épidémie. Et comme a dit l'autre co-débatteur de la société civile, c'est que l'épidémie est arrivée dans une période un peu critique. Et pendant cette période, il y a eu plusieurs faits qui ont fait que la population ne puisse pas adhérer facilement aux activités et à la sensibilisation. Mais de plus en plus, aujourd'hui, ce que nous remarquons avec les stratégies de communication qui sont mises en place, avec les tribunes communautaires, avec le dialogue communautaire, avec la mise en place des comités au niveau de chaque cellule, de plus en plus la communauté est en train de comprendre et nous sommes en train d'aller de l'avant. L'autre ami qui parle...
Par rapport au recrutement des infirmiers sur place, la population n'est pas contente ou il y a des mécontents qui sont frustrés par rapport au fait que vous engagez plus des gens qui viennent de l'extérieur au lieu de prendre la main d'œuvre locale.
Oui, bon, heureusement, bon, je ne sais pas si c'est un journaliste qui a parlé de ça, mais il devrait vraiment arriver au niveau de toutes les coordinations pour avoir les chiffres des gens qui interviennent dans cette épidémie. Je pense que dans une conférence de presse, son excellence le ministre a donné les chiffres. Par exemple, ici à Butembo, vous avez environ 86% de gens qui interviennent, qui sont recrutés localement. Alors, dire que on est venu avec les gens d'ailleurs, on a recruté les gens qui viennent d'ailleurs, je pense que ce n'est pas totalement vrai. Parce que il faut dire que de 10 épidémies que notre pays a connues, celle-ci, c'est la première qui vient au niveau de l'Est. Et les prestataires de santé à l'Est du pays n'ont pas été préparés pour riposter et organiser correctement cette épidémie. Ainsi, le ministère de la Santé a utilisé ses experts nationaux du niveau central, ainsi que d'autres provinces, que ce soit le Sud-Ubangi, que ce soit l'Équateur, que ce soit toutes les provinces qui ont eu une expertise avant, sont venues pour appuyer. Et lorsque nous sommes arrivés, le recrutement n'a pas été fait de façon comme cela a été dit. On a recruté dans les formations sanitaires, ainsi que dans les communautés, en passant par les autorités locales. Ce qui est vrai, et on ne peut pas arriver dans une formation médicale s'ils ont 10 agents, prendre tous les 10 agents. Ça arrive, lorsqu'on arrive dans une formation médicale, qu'on prenne 2 ou 3, parce que cette formation sanitaire doit continuer à fonctionner. C'est plutôt les autres qui n'ont pas été sélectionnés localement qui, au fait, véhiculent ces informations. Mais je ne pense pas aujourd'hui que les gens peuvent prouver qu'on a amené tout le monde d'ailleurs. Je ne pense pas. Ça, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas vulgariser maintenant. Maintenant, il faut vraiment avoir les chiffres, les vrais chiffres, et voir ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a aucune personne qui vient de Kinshasa qui prépare les clores. il n'y a aucune personne qui fait le suivi des contacts. Ceux qui viennent de Kinshasa ou qui viennent d'autres provinces, ce sont ceux qui encadrent et qui donnent les orientations stratégiques ou bien des orientations opérationnelles avec des techniciens pour transférer les compétences aux équipes locales.
Merci.
Et difficilement dans une équipe, vous pouvez avoir 10 personnes de Kinshasa sur une équipe de 10 personnes.
Merci, docteur. Edgar Matesso, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi. Je disais qu'on va prendre pour vous, Edgar Matesso, cette réaction qui nous vient de Kolwezi.
Choukoumoui Diro, à partir de Kolwezi, si le gouvernement congolais s'engageait avec l'appui de la MONUSCO à mettre hors état de nuire tous les groupes armés qui opèrent librement dans cette partie de la République, et si tous les partenaires intervenants dans la lutte contre Ebola ne faisaient plus de cette épidémie d'activité lucrative, je pense que même sans l'implication de leaders d'opinion, cette épidémie serait déjà éradiquée, car tout le monde a la peur d'être frappé par une maladie mortelle. C'est pourquoi le ministre de la Santé devrait plus interpeller le gouvernement congolais, car sans la sécurisation de cette partie de la République, même les leaders d'opinion que le ministre sollicite leur engagement se retrouveront à un moment donné exposés ou même victimes de cette maladie.
Edgar Matesso, réaction.
Oui, en fait, je venais de le dire d'ailleurs tantôt. Je disais qu'il y a un contexte de l'insécurité que le gouvernement n'a pas réussi à maîtriser et que à cause de toutes ces discussions, quand on voit les équipes de la riposte avec leur charroi automobile, avec son personnel, on regarde aussi du côté de la sécurité. On trouve que rien n'est fait dans ce sens-là. Et ça alimente des rumeurs et des informations et des orientations parce qu'il y a certains qui veulent récupérer cela et les manipuler à leur vie.
Aujourd'hui, on est en train selon vous, Edgar Matesso, autant que le problème de sécurité ne sera pas réglé, il sera difficile de maîtriser cette maladie.
Tout à fait. Aujourd'hui, vous voyez, il y a certains malades qui partent se cacher dans les bastions des groupes armés pour qu'ils ne soient pas accessibles par les équipes qui font la recherche active. Vous comprenez donc? C'est un grand facteur qui limite le travail de terrain. Mais aussi, ces mêmes équipes de la riposte sont confrontées à des confrontations parfois de groupes armés. Si vous prenez par exemple la zone de santé de Kalunguta, la zone de santé de Vuovi, où les groupes armés, parfois ils disent qu'ils vont empêcher la vaccination ou ils menacent de kidnapper les agents de la riposte et ces mêmes agents qui circulent parfois comme on parle de recrutements locaux. Je suis content que Dr. Yusuf soit revenu sur les 80% des personnes recrutées localement. Mais allez voir aussi comment ils sont traités. On sait par exemple que les relais communautaires sont les moins payés et pourtant ce sont eux qui portent la riposte. Ce sont ceux qui orientent, ce sont ceux qui aident. Allez voir comment les chefs de quartier sont traités aussi. Et pourtant, tout le temps, on recourt à eux pour lever des résistances. Allez voir aussi comment les organisations de la société civile, bien que c'est leur rôle, mais ils méritent aussi être tellement mieux que leur place qu'ils occupent.
Merci,
allez voir
Edgar.
Aussi quelle est la place qu'on accorde à ceux qui sont recrutés localement. Je ne veux pas développer cet aspect-là, mais moi je pense qu'il y a lieu de trouver solution à cette épidémie.
Merci Edgar Matesso. On va vous redonner la parole pour conclure. Benoît Kambéré, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Mambasa.
Maître Edo Nyamudanga depuis Mambasa Nitouri, je me rallie au ministre par rapport à l'appel lancé aux leaders locaux. Il y a vraiment la nécessité et l'urgence d'accentuer la sensibilisation en multipliant les canaux de communication. Pour espérer un succès, il est impérieux de sensibiliser préalablement les leaders d'opinion pour qu'ils s'approprient la lutte et envisager la possibilité de les motiver vu que l'esprit du volontariat est quasi inexistant dans la zone. Il faut en outre assurer la sécurité des humanitaires, engager dans la riposte, car certains menacent de plier bagages si la population continue à attaquer leurs équipes sur terre.
Alors, ce sont là quelques pistes de solutions pour arriver à éradiquer cette maladie.
Tout à fait.
Vous êtes d'accord avec cet auditeur?
Je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur. Et tout à l'heure, quand le docteur Sio a parlé, je l'ai dit, on a commencé à corriger. C'était au début que ça posait problème. Maintenant qu'on implique, et l'appel du ministre de la Santé aux leaders d'opinion, c'est pour corriger ce qui avait été fait auparavant, les erreurs de communication. Hein, il faudrait que tout le monde soit impliqué pour qu'on arrive à une... Parce que c'est un problème que le gouvernement doit prendre à bras le corps. Il ne faut pas seulement s'attaquer à Ebola, il faut également s'attaquer à l'insécurité. Il faut s'attaquer au problème que, à titre d'exemple, les gens ont été frustrés de ne pas voter tout simplement parce qu'on a mis en exergue le fait que Ebola était dans la région. Et maintenant que nous sommes arrivés à 1000 cas, est-ce que on va reporter encore les élections? C'est impossible de reporter les élections parce que le fait que les gens n'ont pas voté, ça a amené une très grande frustration malgré malgré ce que la population a fait d'elle-même en votant en mettant de l'eau. Le simulacre d'élection qui s'est déroulé, ils ont fait en sorte que la sécurité soit là et que les gens se lavent avant de voter.
Merci.
C'était
Benoît.
Pour tordre le cou à cette fallacieuse raison qu'on avait donnée pour que les élections n'aient pas lieu à Beni, Boutembo et...
Merci Benoît Kombéré. Docteur Sillon, nous tournons vers la fin de notre émission. Vous travaillez avec plusieurs partenaires, entre autres la MONUSCO. Est-ce qu'on peut savoir quel rôle joue la MONUSCO dans la lutte contre cette maladie? Et rapidement, et vous allez aussi conclure. Je crois qu'on a perdu docteur Sio, la réalisation. On va essayer de le rappeler. Edgar Matesso, je rappelle que vous êtes premier vice-président de la société civile du Nord Kivu. Votre conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin finalement à cette maladie, changer de stratégie, de méthodologie?
Voilà, je propose quatre solutions rapidement.
Rapidement.
La première solution, oui, la première solution, il faut plus écouter la population en organisant des dialogues communautaires, des tribunes d'expression populaire et renforcer l'échange avec la population.
Deuxièmement.
Deuxième solution, je propose qu'on renforce l'étude socio-anthropologique parce que des fois, il y a certaines habitudes qui choquent la coutume locale.
Troisièmement,
il faudra qu'on essaye de corriger ou interpeller ceux qui sont en train de désorienter la population.
Quatrièmement, enfin.
De leur côté.
Quatrièmement, enfin.
Oui, je voudrais qu'on aborde aussi les problèmes sous plusieurs angles. S'attaquer à l'insécurité,
merci.
Au développement aussi, améliorer
merci,
le développement.
Merci Edgar Matesso. Benoît Kombéré, votre conclusion.
Ben, je crois que le gouvernement doit prendre le problème à bras le corps et attaquer sur tous les plans, communautaires, sécuritaires et de la santé. C'est à cette seule solution et faire participer davantage les leaders d'opinion et la population à cette riposte.
Merci Benoît Kombéré, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Donna Madimba, Pelé Kipela Mondo. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la prise de son, à la mise en onde. Présentation, Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.